sur laquelle on a passé beaucoup de temps, mais il le fallait parce que c'est une des questions clés actuellement et très débattue dans les milieux évangéliques. Et donc, nous constatons que le millénium se confond, en fin de compte, avec le royaume messianique. C'est vrai que nous sommes dans le cadre d'une eschatologie juive, mais il n'y a pas d'autre évangile qu'un évangile juif, en fin de compte. Et quand nous voyons Jésus, c'est en tant que roi des Juifs qu'il est entré dans Jérusalem, le jour des rameaux, par exemple. Et c'est pourquoi l'interprétation millénaire du texte d'Apocalypse 19 et celui 19 et 20 est celui qui est le plus logique, le plus conforme au reste de la révélation biblique. Un partisan du millénium s'appelle Bell, B-E-2-L, disait ceci. La Bible montre combien Israël est important pour Dieu, puisque c'est son histoire qui traverse toute la Bible. Et la Bible ne s'inquiète finalement des nations que par rapport à Israël. Elle fait une différence entre les païens et les juifs. Elle divise l'humanité entre païens et juifs. Et avec ce peuple d'Israël, Dieu a fait une alliance inconditionnelle, même si une partie de cette alliance, c'est vrai, est passée aux païens. Quand nous regardons l'alliance davidique, nous constatons elle aussi que c'est une alliance inconditionnelle, même si Dieu dit que si les descendants de David sont infidèles, il les châtiera, mais jamais il ne rejettera la lignée de David, et par conséquent, le Messie devait venir de cette lignée. Selon les adversaires du millénarisme, Jésus a choisi le concept de la royauté pour mieux le spiritualiser. Et il ne faudrait pas du tout considérer que les passages où il est question de Jésus comme roi soient à prendre au pied de la lettre, ce qui était, selon ses auteurs, la faute essentielle des Juifs. Or, lorsque nous lisons l'annonce de l'ange Gabriel à Marie, nous lisons que ce dernier lui promet que Dieu donnera à ce fils qui doit naître le trône de David, son père. Donc là, nous sommes bien dans la droite ligne des promesses faites à David. Et l'ange ne dit strictement rien à Marie d'une autre conception de ce trône de David. Marie était juive, et par conséquent, elle comprenait l'expression « trône de David » comme le comprenait son peuple depuis des générations. Si donc il s'était agi d'un autre sens, il y a là une ambiguïté fort regrettable, tout se passerait alors comme si l'ange, c'est-à-dire Dieu, avait voulu que Marie comprenne autre chose que ce qu'était le véritable sens du message qui lui était donné. C'est-à-dire que Dieu aurait voulu la tromper délibérément. Est-ce que on peut concevoir quelque chose comme ça de la part de Dieu? S'il y avait eu une autre idée, une autre notion que celle du trône messianique au sens fort du terme, alors l'ange aurait dû ajouter quelque chose. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, mais ce trône sera un trône spirituel, etc. L'ange ne dit strictement rien de ça. Et dans son Magnificat, Marie montre que justement, elle a compris les promesses qui lui sont faites dans le sens classique, c'est-à-dire dans le sens d'une royauté tout à fait terrestre, tout en étant aussi, bien sûr, spirituelle. Cette royauté est liée, bien sûr, à la Nouvelle Alliance. L'Alliance, Jérémie 31. Il est intéressant de noter qu'en Romains 11, versets 26 et 27, Paul aussi cite cette nouvelle alliance, et ça c'est très intéressant, comme encore une alliance à venir de son temps. Voici, dit l'apôtre Paul, il cite textuellement le prophète, les jours viennent où je ferai avec la maison d'Israël et avec mon Juda une alliance nouvelle. Or, en principe, l'alliance nouvelle, elle a déjà eu lieu en Jésus. Et pourtant, l'apôtre Paul dit que cette alliance, elle est encore à venir pour Israël. Elle est encore future du temps de Paul. Pourquoi ? Parce que justement, toute une partie de cette alliance n'est pas accomplie du temps de Paul. Et notamment, toute la partie qui concerne le rétablissement d'Israël dans son pays. Maintenant, l'accomplissement de cette alliance est rendu possible par le sacrifice de Jésus. Et en Hébreux 12, verset 24, Jésus est déclaré médiateur de cette alliance, c'est-à-dire celui qui la rend possible, celui qui la manifeste, celui qui la concrétise. En Jésus, cette nouvelle alliance, eh bien, elle est à portée de la main, si j'ose dire. Mais encore faut-il tendre la main pour pouvoir s'en saisir. Bon. Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, et la Sainte Cène évoque particulièrement, justement, cette nouvelle alliance. Jésus dit, ceci est la nouvelle alliance en mon sang. Alors, c'est vrai, il y a toute une partie de la nouvelle alliance qui est accomplie. Justement, ce qui est spirituel, ce qui est le salut, ce qui est le pardon des péchés, ce que ne dément pas du tout l'Épître aux Hébreux. Mais ça, c'est cette partie qui est spirituelle et qui par conséquent est accessible aux non-juifs. Mais dans la mesure où les juifs ne sont pas entrés dans cette alliance est encore future pour eux. Ce qui est très intéressant de noter, c'est que Paul ne dit pas que puisque les juifs ont rejeté cette alliance, elle est rendue caduque pour eux, ce qui est l'interprétation traditionnelle. Mais bien au contraire, qu'un jour viendra où justement cette alliance aussi sera accomplie pour eux. Parce que cette alliance aussi, elle est inconditionnelle. Elle est inconditionnelle et conditionnelle. Ça veut dire, sa concrétisation dépend de l'acceptation par le peuple d'Israël. Mais comme le peuple d'Israël finira un jour par accepter cette alliance, alors elle est quand même inconditionnelle. Et ça aussi, l'Épître aux Hébreux le confirme. Maintenant, reprenons un petit peu le même raisonnement que pour ce qui est de la Vierge Marie. Lorsque Jésus, le soir de Pâques, parlait de la nouvelle alliance en son sang, comment les apôtres ont-ils compris cette expression ? Comme disait Irénée de Lyon, les non-juifs que nous sommes sont toujours tentés de regarder par-dessus l'épaule des apôtres pour corriger leur copie. Étant entendu que les apôtres n'ont rien compris aux paroles de Jésus, et que nous, justement, par contre, nous avons fort bien compris ce qu'étaient les paroles de Jésus. Irénée tonnait contre ça en disant « Quelle suffisance !» Déjà de son temps, il y en avait qui agissaient comme ça. Bon. Et encore une fois, les apôtres étaient juifs. Et quand Jésus leur a parlé de la Nouvelle Alliance, tout naturellement, ils ont pensé à Jérémie 31. C'est la seule Nouvelle Alliance à laquelle ils pouvaient penser. Or, selon justement ceux qui regardent par-dessus l'épaule des apôtres et qui corrigent leur copie, nous disent oui, ils se sont trompés parce qu'en fait, il y a une autre alliance. Une alliance qui est conclue avec les païens. Parce que l'alliance de Jérémie 31, elle n'est pas conclue avec les païens. Elle est conclue avec la maison d'Israël, avec la maison de Juda. C'est écrit en toutes lettres. Et les païens ne sont même pas mentionnés. Donc, quand Jésus a parlé de la nouvelle alliance, nous disent nos théologiens, c'était évidemment pas de l'alliance de Jérémie 31 à laquelle il faisait allusion. Mais c'était vraiment une nouvelle alliance qui n'avait jamais été exposée dans les Écritures et que Jésus manifestait et qui était une alliance faite avec les païens. Bon, très bien. Alors, question. Si c'est ça, pourquoi Jésus n'a-t-il pas expliqué ça à ses disciples le soir de Pâques ? Pourquoi Jésus leur a-t-il laissé croire ce qu'ils ont cru tout naturellement en tant que juifs, que cette nouvelle alliance était l'alliance dont il était question dans Jérémie 31. Est-ce que Jésus, à ce moment-là, aurait voulu délibérément les tromper, les induire en erreur? C'est impensable, c'est inimaginable, c'est blasphématoire de même poser la question. Donc si Jésus n'a rien dit de la nouvelle alliance, conclusion, c'était à l'alliance de Jérémie 31 à laquelle il faisait allusion. Voilà la conclusion à laquelle on ne peut pas échapper. Alors, cette alliance s'applique à Israël dans la mesure où des païens, par la foi en Jésus, s'identifient avec Israël. Parce que finalement, c'est ça aussi la foi en Jésus. C'est s'identifier avec l'héritage spirituel d'Israël. Et c'est tout le thème de l'Épître aux Romains, on aura l'occasion d'y revenir. Ça, peu de gens l'ont compris. Alors, cette alliance leur devient aussi disponible. Mais pas un acte gratuit de Dieu, comme le montre l'apôtre Paul. Immérité totalement. Et je dirais presque contre nature. Mais cette alliance suivra la parousie en ce qui concerne justement Israël. Et par conséquent, Israël reste une nation éternelle auquel est promis une terre éternelle. Ça aussi, c'est une chose très importante à souligner, ce que l'on ne veut pas reconnaître aujourd'hui. Alors, Israël aujourd'hui. Qu'en est-il d'Israël aujourd'hui? La première remarque que nous avons à faire, c'est que l'idée d'un royaume spirituel, uniquement spirituel, ce qui est l'idée force de la plupart des églises aujourd'hui, cette idée d'un royaume uniquement spirituel est inconnue dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Je défie qui que ce soit de montrer un seul texte qui aille dans ce sens-là. En fait, c'est une erreur de croire que Jésus prônait un tel royaume. Il suffit de relire, par exemple, ce qui est écrit dans Acte 15, ce que rappelle l'apôtre Jacques, quand il dit qu'il cite la prophétie d'Amos, Amos 9, « Le temps viendra où je relèverai la cabane de David qui est tombée. » Donc, le rétablissement d'Israël, ça c'est ce qu'attendaient les apôtres, c'est évident. Et Jacques rappelle que Dieu a commencé avec Israël une action, puis le Messie est venu pour relever justement la tente de David. Nous avons là, dans ce texte d'Acte 15, si cela était nécessaire, une preuve de la foi millénariste de l'Église. Ça, il n'y a pas de problème. Lorsque la Bible nous parle du royaume, elle veut dire plusieurs choses. D'abord, il y a le royaume total et universel de Dieu, dirigé par Dieu. Dieu règne sur toute chose. Dieu règne sur l'univers. Il est le roi de toute sa création. Vous avez ça dans les psaumes, l'Éternel règne. Il règne sur tous les peuples. Il fait tout ce qu'il veut, dans le ciel et finalement aussi sur la terre. Bon. Mais le royaume tel que l'entend plus précisément la Bible, est aussi un royaume qui se manifeste par des médiations. Médiation d'Israël, dans le présent et dans le futur, et puis aussi évidemment médiation du Messie et médiation de l'Église. Le royaume universel, il existe depuis tous les temps, il implique tout l'espace et tout le temps. Bon, citons quelques textes, 1 Chronique 29, verset 12, Psaume 148, verset 8, Psaume 103, verset 19, etc. Bon. Il y a, pendant la période de l'Ancien Testament et jusqu'à la destruction d'Israël en 70, un royaume de Dieu qui est actualisé, qui se confond avec la nation juive. C'est pas, on trouve ça déjà à l'époque des juges. Et puis, évidemment, il y a ce royaume qui sera rétabli au temps de la fin. Est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? Or, Jésus n'a jamais dit ou laissé entendre que sa conception du royaume était différente de celle des prophètes de l'Ancien Testament. Jamais. Contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Et là aussi, le fait que Jésus n'ait jamais cru devoir corriger, entre guillemets, une fausse conception du royaume qui était celle des apôtres, et notamment justement avant son ascension, quand les disciples demandent « Est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Jésus ne corrige pas, et Jésus ne dit pas qu'il ne fera pas. Il dit simplement que ce n'est pas pour tout de suite, et que finalement ce n'est pas aux apôtres de connaître le temps où cet événement aura lieu. Mais en parlant de la sorte, Jésus confirme qu'en son temps, au temps fixé par Dieu, de sa propre autorité, ce royaume sera bel et bien rétabli. Et ce que le Seigneur apportait quand il parlait du royaume était quelque chose de plus qu'une règle, qu'une soumission des cœurs au Seigneur. C'était ça aussi, c'est vrai, mais c'était bien plus que cela. Maintenant, le royaume a été rejeté par Israël, c'est vrai, par la génération de Jésus. La génération de Jésus est coupable, la génération des Juifs de l'époque de Jésus est coupable, ceux de Jérusalem en tout cas, de ne pas avoir accepté ce royaume. Elle est coupable de s'être solidarisée avec ses chefs, avec ses leaders qui ont condamné Jésus. Mais ça ne veut pas dire que les générations suivantes le sont obligatoirement. Et en tout cas, lorsque nous lisons l'Écriture, nous voyons d'une manière claire et certaine qu'il y aura un autre jour des rameaux, une autre entrée de Jésus dans Jérusalem, où le peuple tout entier dira « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». C'est ce que Jésus lui-même affirme dans ce jour des rameaux lui-même. Autre point maintenant à éclaircir également, la relation entre Israël et l'Église. D'abord, il faut remarquer que l'Église est une réalité différente d'Israël. L'idée de Calvin sur laquelle il y aurait une Église dans l'Ancien Testament ne tient pas. L'Église, et c'est l'apôtre Paul lui-même qui nous le dit dans l'Épître aux Corinthiens, dans l'Épître aux Éphésiens, n'a jamais été révélée dans l'Ancien Testament. Elle est aussi différente du royaume. Elle ne se confond pas avec lui. Elle est à part du royaume. Et lorsqu'il est question dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, des esprits des justes qui sont arrivés à la perfection, eh bien justement, il s'agit là des saints de l'Ancien Testament qui sont arrivés dans la Jérusalem céleste, sans pour autant appartenir à l'Église. Il y a dans la Jérusalem céleste à venir les saints de l'Ancien Testament, l'Église de Jésus-Christ, et puis, peut-être aussi ce que le Seigneur, dans sa pure grâce, estimera nécessaire de sauver. Nous ne savons pas exactement. Et lorsque nous lisons Apocalypse 7 en particulier, il semble bien que la différence continue à exister même dans l'éternité. Contrairement à ce que disent nos bras frères de Vaux, comme nous l'avons lu la dernière fois. Par conséquent, pour le Nouveau Testament, il est indéniable, indiscutable, qu'Israël a un avenir. D'ailleurs, le fait même qu'Israël ait continué à exister dans son histoire, malgré son exil et malgré ses souffrances, montre bien que Dieu a un dessein pour son peuple. Et ce dessein n'est pas seulement d'être un témoignage de la vérité du christianisme par les humiliations d'Israël, comme l'avait cru saint Augustin, n'est-ce pas ? Seulement, le problème, c'est que depuis saint Augustin notamment, mais même avant, on ne peut pas supporter l'idée qu'Israël puisse avoir quelques privilèges que les non-juifs n'auraient pas. Et en fait, lorsque nous lisons l'Ancien Testament, nous rendons compte que la différence qu'il fait, que le Nouveau Testament fait en ce qui concerne Israël, c'est la différence entre ceux d'Israël qui croient en Jésus et ceux qui n'y croient pas. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui ne croient pas en Jésus cesse pour autant d'appartenir à Israël. Pas du tout. Il continue à faire partie d'Israël. Le problème n'est pas de savoir s'ils sont ou non israélites, mais s'ils sont ou non croyants en Jésus. C'est ça que Paul pose comme question dans l'Épître aux Romains en particulier. Par conséquent, ici, il y a un mystère de l'Église. L'Église était un mystère caché en Dieu depuis tous les temps. Et ce mystère, c'est que juifs et non-juifs peuvent devenir un sans cesser d'être ce qu'ils sont. Ça veut dire dans l'Église, le païen ne cesse pas d'être un non-juif, il ne devient pas juif. Et le juif ne devient pas un païen, il ne cesse pas d'être juif. Mais en tant que tel, en tant que juif et en tant que païen, ils sont un. C'est ça le grand mystère, c'est ça le grand miracle, en quelque sorte. C'est que ces deux que tout oppose, et qui pour devenir un devraient abandonner leur identité, ou du moins un des deux, ce qu'on exige aujourd'hui comme on exigeait à l'époque de la Bible, mais dans le sens inverse. À l'époque du Nouveau Testament, on exigeait que le non-juif abandonne son état de non-juif pour devenir juif. C'est tout le problème de l'Épître aux Galates. Aujourd'hui, on exige du juif, quand il rentre dans l'Église, qu'il cesse d'être juif. Je lisais dans un écrit des Assemblées de Dieu de France, pas plus tard que cette semaine, un petit compte-rendu sur leur mission, et notamment sur la mission qu'ils ont en Israël. Parce qu'il faut avoir chacun, toute Église qui se respecte, se doit d'avoir son missionnaire en Israël, bien sûr. Et alors, il disait que dans la petite œuvre qu'ils ont à Jérusalem, il y a des gens qui sont d'origine juive. C'est admirable, n'est-ce pas ? Cette expression est tout à fait typique d'une théologie totalement faussée. Ils étaient juifs, mais maintenant ils sont devenus chrétiens. Ils ne sont donc plus juifs. Mais ils sont d'origine juive. Mais ils ont cessé de l'être. Voilà. Alors évidemment, là, on n'a rien compris au mystère de l'Église. Rien du tout. La Bible nous parle de ces mystères, le mystère d'Israël aussi. Israël en est un. Je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère. Il y a le mystère de l'enlèvement. Je vous dis un mystère. Nous serons tous transformés au dernier chauffard, etc. Alors, lorsque nous regardons le Nouveau Testament, qu'est-ce que nous constatons ? Que l'Église, c'est le programme de Dieu, découplé d'Israël, découplé de celui qu'il avait pour Israël, pour que les goyim, les non-juifs, puissent avoir part aussi à l'héritage spirituel d'Israël. Parce que Jésus a été partiellement rejeté par son peuple. Dieu a changé ses plans envers Israël pour un temps. Et il appelle maintenant des païens à le suivre personnellement. Et là aussi, un des grands problèmes qui fausse la vision de l'Église et qui fausse la vision des relations entre Israël et l'Église, c'est le problème Église multitudiniste, Église de professants. Depuis Constantin, Augustin, Calvin, etc. L'Église, c'est une collectivité, c'est une entité. On entre dans l'Église par la naissance, comme on devenait israélite par la naissance, d'où le baptême des enfants. Par conséquent, l'Église est un peuple. On essaie, dans l'Occident chrétien, on était chrétien. Comme aujourd'hui, on est dans le monde musulman, on est musulman par la naissance. On dira, mais c'est vrai aussi d'Israël. Oui, c'est vrai d'Israël, mais c'était le plan de Dieu pour Israël. Car Israël est exclu, pardon, Israël est élu collectivement. Il est élu en tant que peuple. Et par conséquent, on entre en Israël par la naissance, par la circoncision du huitième jour. Mais l'Église, c'est différent. On entre dans l'Église par un choix personnel, par un appel personnel de Dieu. Et à partir du moment où c'est ainsi, on devient ces branches dont parle l'apôtre Paul, ces branches de l'olivier sauvage qui sont greffées sur l'olivier naturel d'Israël. Donc, il n'est pas question ici d'une substitution. L'Église ne se substitue pas à Israël, elle se greffe, et le mot est biblique lui-même, n'est-ce pas ? Elle se greffe sur Israël, et elle subsiste sur le tronc d'Israël aussi longtemps que l'individu a la foi. L'individu qui cesse de persévérer dans la foi, nous dit l'apôtre Paul, est retranché, sans que cela n'enlève quoi que ce soit, d'ailleurs, à la réalité de l'Église. À aucun moment dans l'Église, personne, qu'il soit juif ou qu'il soit goy, qu'il soit païen, n'est soustrait, n'est séparé de son ancien substrat. L'Église est ce mystère qui commence à la Pentecôte et qui aura une fin. Cette fin, ce sera la parousie. Par conséquent, elle est, et là nos frères fondamentalistes ont raison de parler de parenthèse de l'Église, c'est vrai, elle est une parenthèse dans le plan de Dieu, une parenthèse de son amour et une parenthèse de sa grâce, une parenthèse très importante. Elle était présente de tout temps dans le dessein de Dieu, nous dit l'apôtre Paul, dans le plan de Dieu, et c'est pourquoi elle constitue l'essentiel du sujet dont traitent les épîtres. Les épîtres sont essentiellement centrés justement sur ce qui concerne l'Église. Ce qui fait, et maintenant nous arrivons à un autre point extrêmement important, que l'herméneutique, c'est-à-dire l'interprétation de l'Écriture, doit se faire en allant de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, et pas seulement en interprétant l'Ancien Testament par le Nouveau, ce qui est une règle exégétique majeure dans la plupart des églises chrétiennes. Il faut lire l'Ancien Testament au travers du Nouveau. Magnifique. Mais qu'est-ce que faisaient les Juifs quand ils n'avaient pas de Nouveau, quand le Nouveau n'existait pas ? Si on ne peut pas comprendre l'Ancien Testament sans le Nouveau, ça veut dire que pendant des siècles, le peuple d'Israël n'a pas compris un traître mot à ses propres Écritures. Vous voyez que c'est quand même assez fort. Et là, nous retrouvons justement la même objection que nous avons faite à plusieurs reprises. Donc, Dieu a volontairement voilé la compréhension de sa parole à son peuple. Pas très gentil. Dieu a permis que son peuple se trompe. Là aussi, c'est impensable. C'est impensable. Or, est-ce que ceux qui interprètent l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau sont toujours certains d'être dans la compréhension juste des choses? Quand on voit certaines aberrations, on peut en douter. Alors c'est vrai, il faut une direction du Saint-Esprit pour comprendre l'Écriture. Mais qu'est-ce qui nous dit que les hommes de l'Ancien Testament étaient dépourvus de cet esprit? Les prophètes, Pierre nous dit exactement le contraire, que l'esprit qui était en eux voulait sonder des choses qui ne leur étaient pas encore accessibles. Ah, vous en voyez bien, donc, ils ne comprenaient pas. Si, ils avaient une compréhension partielle, pas une compréhension totale. Gloire à Dieu, nous les chrétiens, nous avons une compréhension totale de l'Écriture. Nous avons le plein évangile. Désolé, 1 Corinthiens 13, nous connaissons en partie, nous aussi. Que voulez-vous ? Nous connaissons en partie. Nous avons la plénitude de la révélation, mais nous connaissons en partie. Nous la comprenons en partie. Alors, bon, les hommes de l'Ancien Testament comprenaient moins que nous, c'est vrai. Ça ne veut pas dire que nous comprenons tout, que nous avons le plein évangile. Alors, ça nous amène d'abord à un peu d'humilité. Et ce qui est ici à comprendre, c'est qu'il y a une progression de la révélation. Et que l'Ancien Testament n'est pas contradictoire avec le Nouveau. C'est vrai, le Saint-Esprit nous conduit à comprendre ce qui est accompli et ce qui n'est pas accompli, sans que nous ayons à craindre des contradictions entre l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est ça qui, justement, est la crainte majeure de ceux qui nous disent il faut lire l'Ancien Testament par le Nouveau, parce qu'ils ont peur qu'ils y trouvent des contradictions. Il n'y a pas de contradictions. C'est eux qui les inventent, les contradictions. Bien sûr, si on veut voir l'Église dans l'Ancien Testament, alors c'est vrai qu'on va trouver des contradictions entre l'Ancien et le Nouveau. Bien sûr, si on veut voir une théologie de la substitution, si on veut voir dans l'Ancien Testament que l'Église va remplacer un jour Israël, on aura du mal à le faire. Bon, on verra des contradictions. Là, il n'y en a pas. Mais justement, quand on lit sans préjugés, il n'y a pas de contradiction. Jamais le Nouveau Testament n'invalide ce qui est écrit dans l'Ancien. Jamais. Alors vous allez me dire, mais alors, les lois sur les sacrifices, etc. Oui. Ben oui. Jamais le Nouveau Testament nous dit que c'était une mauvaise chose de faire ainsi. Il nous dit justement que c'était une révélation limitée. Et que maintenant c'est une révélation totale. En Jésus, nous avons ce qui était en germe dans ces rituels des sacrifices. Donc nous n'avons plus besoin des sacrifices. Mais ça ne veut pas dire que les sacrifices, comme on dit, sont abolis. Ils sont réalisés, ils sont accomplis en la personne de Jésus. Puisque Dieu a donné d'abord l'Ancien Testament, ensuite le Nouveau, comment peut-on croire qu'il ait fallu attendre le Nouveau Testament pour pouvoir comprendre l'Ancien Testament? C'est quand même un peu fort. C'est quand même une pétition de principe qui est éminemment discutable. Et en fait, cela relève de cette tentative que l'on fait constamment alors, de dépouiller Israël, en pensant qu'en dépouillant Israël, on enrichit l'Église. En fait, en dépouillant Israël, on appauvrit Israël et on appauvrit l'Église aussi. Et en fait, en rendant Israël ce qui revient à Israël, on enrichit également l'Église. Et ça, évidemment, c'est difficile à rentrer dans les consciences et dans les esprits. Pour d'autres également, et ce sont deux points qui sont liés, souligner la judéité de Jésus, la judéité de l'Évangile, c'est porter atteinte à la divinité de Jésus. Parce que souligner que Jésus était juif, bon, il était d'origine juive, ah, alors là, d'accord, a été d'origine juive. Quand Jésus est remonté au ciel, il a cessé d'être juif. Pour devenir l'homme universel. On se croirait dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. On se croirait dans la vision mondialiste de tous les prophètes modernes, là, des droits de l'homme et tout ça, de la religion mondialiste, n'est-ce pas ? Citoyen du monde. Jésus n'était pas juif, il était citoyen du monde. C'est bien. Comme ça, il était fils de Dieu, était citoyen du monde. Mais si nous soulignons que Jésus est juif, c'est comme si on touchait à sa divinité. Je me souviens d'avoir écrit il y a un certain nombre d'années un Keren qui portait ce titre, Un juif nommé Jésus. Et j'ai reçu des critiques après avoir publié ce numéro en disant que justement, ça m'était mal à l'aise parce que, en soulignant que Jésus était juif, il aurait fallu que je précise plus que Jésus était quand même le Fils de Dieu, quoi. Bien sûr, on ne pouvait pas dire que bon, ce que je disais était faux. Mais enfin, il fallait que ce soit contrebalancé en ressoulignant. Alors, c'est beaucoup étonné, je dis, mais bien sûr que Jésus est le Fils de Dieu, ça tombe sous le sens. Et finalement, chaque fois qu'on souligne que Jésus est juif, il nous faut refaire une théologie de Nicée-Constantinople pour prouver la divinité de Jésus. Pour dire que, bien qu'on dise que Jésus était juif, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on ne croit pas que Jésus soit le Fils de Dieu. Comme si les deux choses étaient incompatibles. Car Jésus juif, c'est pas Jésus universel, quoi. Alors que justement, c'est l'inverse pour la Bible. Le peuple juif a une vocation universelle. Et parce que Jésus est juif, il est l'homme universel. Il est l'homme universel parce qu'il est juif, justement. Et il est le fils de Dieu parce qu'il est juif. Parce que l'idée du fils de Dieu, elle n'existe que dans le judaïsme. Et nulle part ailleurs. Ou alors, c'est les dieux humains qui sont ceux des Grecs, n'est-ce pas, les dieux qui engendrent, n'est-ce pas. Bon, c'est le contraire, évidemment, de ce que la Bible nous enseigne. Les béatitudes aussi sont très intéressantes à ce niveau-là. Jésus nous dit « Heureux les doux, car ils posséderont la terre ». Il cite le psaume 37. Il y a deux versets dans le psaume 37 qui disent cela. Bon, certaines versions anciennes, et notamment dans les manuscrits de la Mer Morte, où ce psaume 37 est aussi commenté, il y a cet ajout, ce commentaire, « La terre dont il est question est la terre eschatologique, la terre à venir ». La terre renouvelée. Bon, ça gêne beaucoup les exégètes. Ils posséderont la terre. Ça veut dire quoi? Oh, pas cette terre-là. Ou si, mais... Alors, bon, les croisades, à ce moment-là, inquisition, établir le règne du Seigneur par la force. C'est un texte qui est très gênant, n'est-ce pas? Et puis, finalement, c'est quand même très curieux de voir que sur la croix, il y avait le titulum, n'est-ce pas, en trois langues. En hébreu, en grec et en latin, ça veut dire dans toutes les langues des nations. L'hébreu, la langue du peuple juif. Le grec, la langue de la partie orientale de l'Empire. Et le latin, évidemment, la langue de l'Empire romain. Et ces trois inscriptions disaient ceci, le roi des juifs. C'est très intéressant de voir que sur les représentations des horribles calvaires qui sont dans nos pays, en général, il y a l'inscription latine uniquement, ou du moins abrégée, INRI. Ça veut dire exactement ça, le roi des Juifs. Évidemment, quand on s'offusque sur le fait que Jésus soit le roi des Juifs, il faudrait être conséquent quand même. Et voyez-vous, implicitement, par la force des choses, en ne le voulant pas, la chrétienté, même la plus antisémite, est obligée de reconnaître et reconnaît que Jésus est le roi des Juifs. Qu'il est cette pierre qui se détache de la montagne et qui un jour détruira tous les royaumes de la terre, comme l'avait bien vu le père de l'Église, Papias. Et que ce millénium n'est pas du tout le temps, comme pensait Augustin, où le Seigneur règne sur son Église. Alors, nous pouvons, à partir de cela, reprendre le déroulement des événements tels que la Bible les décrit, notamment dans le livre de l'Apocalypse. La parousie et l'enlèvement de l'Église. Bon. Combien de temps avant la parousie aura lieu l'enlèvement de l'Église, ça on ne le sait pas. Ça peut être des années, des mois, des jours, des heures, des minutes, ou même des secondes. Je ne sais pas. Ce que disait le professeur Flusser quand il disait « Déterminer le temps de la parousie de l'enlèvement par rapport à la parousie est la question la plus difficile qui soit pour l'étude du Nouveau Testament. » Et c'est ainsi parce que Jésus l'a voulu comme ça, pour qu'on soit prêt à tout moment. Et c'est pourquoi quand les apôtres disaient, nous les vivants, nous serons enlevés, etc., ils n'avaient pas tort, même s'ils savaient, au demeurant, que la parousie n'aurait pas lieu tout de suite. Maintenant, l'enlèvement de l'Église sera précédé d'un autre événement, la résurrection des morts dans le Messie. Paul nous dit, les vivants ne devanceront pas ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts auront un privilège sur les vivants, une priorité pour eux, plutôt qu'un privilège, une priorité. C'est eux qui ressusciteront les premiers. Ce que l'Apocalypse, chapitre 20, appelle la première résurrection. Heureux ceux qui ont part à la première résurrection. La résurrection d'entre les morts. Ce ne sont pas tous les morts qui ressuscitent, mais les morts bienheureux. Les morts dans le Seigneur. C'est tout ça, évidemment, c'est dans des temps extrêmement brefs. La résurrection des morts a lieu, et en un clin d'œil, en un atome de temps, dit le texte biblique très exactement, les vivants sont transformés. Et morts et vivants, ayant revêtu un corps glorifié, en un instant, en un clin d'œil, ce corps spirituel dont nous avons parlé la dernière fois, vont à la rencontre du Seigneur dans les airs. Le Seigneur qui descend à ce moment-là pour établir son règne sur la terre. Il y a donc, et ça c'est ce que les textes bibliques nous disent, n'est-ce pas, une réunion, une rencontre, n'est-ce pas, un rassemblement dans les airs entre le Seigneur et son Église glorifiée. Et tout cet ensemble revient alors sur la terre. Les pieds du Seigneur se posent sur le mont des Oliviers. Il vient, nous dit la Bible, et tous ses saints avec lui. Bon, les saints, ça peut être les anges, il y aura aussi des anges. Matthieu 25, il viendra dans la gloire avec tous ses anges. Mais aussi, justement, avec son Église glorifiée. Il vient pour sauver Israël, d'abord, qui est sur le point de succomber devant la grande attaque des nations, qui a eu lieu et qui a pour but de détruire Israël définitivement, psaume 2, et qui est mené par l'Antichrist, la bête et le faux prophète. Et lorsque le Seigneur vient sur le mont des Oliviers, c'est la destruction, la défaite totale des armées des nations. Au dernier moment, alors qu'Israël allait succomber, la bête et le faux prophète, l'Antichrist et le faux prophète, sont déjà jetés vivants dans l'étang de feu et de soufre qu'est la seconde mort. Quant à Satan, il est lié, nous est-il dit, pendant les 1000 ans, pour qu'il ne séduise pas les nations, pour qu'il ne séduise plus les nations. Et pendant ce millénium, l'Église régnera, 2 Timothée 2, verset 12. Est-ce à ce moment-là qu'aura lieu les noces de l'agneau, qu'auront lieu les noces de l'agneau? Est-ce entre l'enlèvement et le retour de Jésus? Bon, c'est difficile de préciser. Tout Israël, évidemment, quand il verra le Seigneur dans sa gloire revenir, se tournera vers lui. Ce sera donc l'illumination d'Israël, la réintégration d'Israël sur son propre olivier et l'accomplissement du dessein de Dieu pour Israël, l'accomplissement de la nouvelle alliance dont nous avons parlé. Les exilés d'Israël, les derniers exilés d'Israël, notamment les 12 tribus, seront rassemblés dans le pays promis. Il y a deux rassemblements quand on lit les prophéties, n'est-ce pas ? Il y a un rassemblement qui précède la venue de Jésus en gloire, celui que nous vivons, les ossements desséchés d'Ézéchiel 37, et puis quand nous lisons Zacharie et d'autres textes, nous voyons qu'après la parousie, après le retour de Jésus, les derniers exilés, notamment ceux des 10 tribus, sont rassemblés dans un pays d'Israël considérablement étendu, qui va de l'Euphrate au Nil. Les Arabes ont quelques raisons de s'inquiéter, même si ce n'est pas dans les plans d'Israël actuel. Tous ces millions de gens, n'est-ce pas, seront rassemblés dans cet immense pays qui, alors, eh bien, sera la Terre Sainte dans son ensemble. Il y aura une place pour les non-juifs, et notamment pour les Arabes, nous disons ça, dans Ézéchiel 47 notamment. Il y a une part du pays qui sera réservée aux non-juifs, qui voudront continuer à habiter dans le pays, mais à une seule condition, c'est que ces gens-là acceptent de vivre selon la loi du Seigneur. Finalement, nous avons là tout la solution du problème israélo-arabe actuel. Le problème israélo-arabe n'existe que pour une seule raison. Parce que les Arabes ne veulent pas se soumettre à la loi d'Israël. Ils veulent vivre sous leur charia, sous leur propre loi musulmane. Et tout le problème, il est là, il n'est pas ailleurs. Le jour où les Arabes seraient prêts à accepter même la loi laïque d'Israël, une des plus libérales qui soit au monde, rien ne les empêcherait de vivre dans les limites de l'État d'Israël. Qu'est-ce qui les en empêche ? Simplement le refus d'accepter l'autorité, la souveraineté et par conséquent la loi d'Israël. Eh bien, s'ils veulent continuer à habiter dans le pays, nous dit Ézéchiel, un jour ils devront accepter ça. Ou bien alors, bien, ils iront ailleurs. N'est-ce pas ? Et c'est exactement ce que nous pouvons dire, nous aussi, en tant que chrétiens, quand on dit, mais alors, les Arabes, la Bible a prévu. La Bible a prévu déjà depuis longtemps. Ézéchiel 27, verset 6. Pendant le millénium, Israël, revenu au Seigneur, sera un témoin exemplaire pour toutes les nations. Ayant vécu parmi toutes les nations, il connaîtra comment se faire tout à tous. Les Juifs français iront vers les Français parce qu'ils connaîtront bien la mentalité des Français. Les Juifs américains iront vers les Américains, les Juifs russes vers les Juifs russes, etc. etc. Il y aura ici, donc, ses rachetés parmi les nations iront proclamer sa gloire, Ésaïe 46, verset 3. Ésaïe 60, des rois marcheront à sa lumière et des peuples à la clarté de ses rayons. Les nations se concerteront et monteront à Jérusalem pour y être enseignées dans les lois de Dieu. Ésaïe 2, Michée 4, toutes les nations monteront à Jérusalem, car de Sion sortira la Torah et la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Il y aura des ombres, pourtant encore au millénium. Le péché sera encore possible. Le pécheur qui mourra à 100 ans sera considéré comme mourant jeune. La mort, bien que intervenant beaucoup plus tard, puisque les jours de mon peuple seront comme ceux de l'arbre, c'est-à-dire comme à l'époque antédiluvienne, la durée de la vie humaine approchera le millénaire, tant et si bien que. Il y aura une contrainte. Satan, bien qu'il y ait, la nature charnelle de l'homme sera encore là. Il y aura encore une fois possibilité de pécher, non pas sous la tentation d'adversaire, mais amorcée par sa propre convoitise, comme le dit l'apôtre Jacques. Et c'est pourquoi le Seigneur règnera avec une verge de fer. Ce sera la théocratie. Cette théocratie que redoutent notamment justement les nations aujourd'hui. Voilà. Et puis évidemment, au bout des 1000 ans, Satan est relâché pour un peu de temps. Satan est lié au moment de la première résurrection et il est relâché au bout des 1000 ans. Pourquoi ? Eh bien, pour une bonne et simple raison. C'est que ceux qui sont nés pendant le millénium auront sur ceux qui sont nés avant un extraordinaire privilège. Ils n'auront jamais connu expérimentalement ce qu'est la tentation démoniaque. Donc, le salut sera une évidence pour eux. Ce ne sera pas une lutte, ce ne sera pas un combat. La sanctification ne sera pas un combat, comme c'est le cas pour nous. Ils ne sauront pas ce que c'est que la souffrance, ils ne sauront pas ce que c'est que la maladie, ils ne sauront pas ce que c'est que la guerre, etc. Alors, être sauvé pendant le millénium, il n'y a rien de plus simple que ça. Et justement, pour donner à tous les hommes, si j'ose dire, l'égalité des chances, si je peux me permettre cette expression, à la fin du millénium, Dieu permet que Satan soit relâché pour un peu de temps. Pour que tous les hommes puissent être tentés. Et alors, chose extraordinaire, qui nous étonne, qui nous bouleverse, qui nous laisse sans voix, cette humanité qui a vécu un millénaire d'âge d'or, un millénaire paradisiaque est encore prêt, malgré ça, malgré ce qu'il a vu, à prêter l'oreille, dans sa grande majorité, à la voix de Satan. Et c'est à nouveau le même scénario que celui qu'avait eu 1000 ans plus tôt. les forces du mal, Gog et Magog dans la tradition juive, animées par Satan, montent sur le camp des saints, la ville bien-aimée, Jérusalem, et Zacharie 14 recommence. Et cette fois-ci, c'est la fin de la terre telle qu'elle est. Le feu descend du ciel et les consume, c'est la fin. Et alors va avoir lieu le jugement dernier. Là, tous les morts, cette fois-ci, ressuscitent. Notamment tous ceux qui ne sont pas ressuscités pendant la première résurrection. Et ces gens-là sont jugés selon leurs œuvres. Tout est écrit dans les livres et ils sont jugés selon les œuvres. Et ceux qui ne sont pas écrits dans le livre de vie sont jetés dans les temps de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Nous aurons l'occasion de voir de quoi il retourne par cette expression. Quant à Satan, c'est la fin de Satan. Satan, à son tour, est jeté vivant dans les temps de feu et de soufre, où sont déjà la bête et le faux prophète depuis 1000 ans, et il va les rejoindre, c'est pas cette fois-ci, pour l'éternité. Alors va commencer l'éternité, ce que la Bible appelle « Aolam Abba », le monde qui vient, n'est-ce pas ? Et qui est la manifestation d'une terre nouvelle et d'un ciel nouveau. Une création nouvelle. Et un monde dans lequel ces rachetés, ressuscités vont pouvoir vivre une vie entièrement nouvelle, sans aucune comme une mesure avec ce que nous vivons actuellement sur cette terre, bien que il y ait une relation. C'est très intéressant. On aura l'occasion de revoir cette notion de ce qu'on appelle, les théologiens appellent la récapitulation. Vous avez ça dans Colossiens. Il est écrit que Dieu a choisi de tout récapituler dans le Messie, les choses qui sont sur la terre et les choses qui sont dans le ciel. La Bible commence dans un jardin, jardin d'Éden. Ça veut dire dans un environnement qui est entièrement naturel, dans lequel la main de l'homme n'est intervenue en rien. Et elle se termine non pas dans un jardin comme dans l'islam, mais dans une ville. La Nouvelle Jérusalem. Or, la ville, dans la parole de Dieu, c'est pas quelque chose de positif. D'ailleurs, le mot « ir » en hébreu, ça vient de la racine « maudire ». La ville, pour la Bible, c'est un lieu maudit. Et pourtant, le monde de la fin, c'est une ville. Et pas n'importe quelle ville. C'est Jérusalem. C'est-à-dire la Nouvelle Jérusalem. Quand nous en lisons la description dans le livre de l'Apocalypse, n'est rien d'autre que la récapitulation de l'histoire de la Bible. Vous y trouvez effectivement des éléments du jardin d'Éden, les fleuves de l'Éden, les pierres précieuses de l'Éden, l'arbre de vie de l'Éden, etc. Mais vous y retrouvez les 12 tribus, vous y retrouvez Jérusalem, vous y retrouvez le trône de David, vous y retrouvez toute l'histoire de l'Église, les apôtres, etc. Et puis, ça veut dire quoi? Que Dieu construit la Nouvelle Jérusalem avec ce que les hommes lui fournissent, les matériaux que les hommes lui fournissent. Ça veut dire, Dieu prend ces matériaux, ce que les hommes ont fait de l'histoire dans leur liberté. Par exemple, l'élection de David n'entrait pas dans le plan de Dieu. Dieu ne voulait pas que son peuple ait un roi qui règne sur lui. Mais le peuple d'Israël a décidé qu'il aurait un roi. Alors Dieu a dit, ok, on aura un roi, mais c'est moi qui vous donnerai le roi. Ce ne sera pas n'importe quel roi. Et finalement, le Messie est un roi, fils de David. Sa récapitulation. Dieu tient compte des désirs des hommes. Les hommes ont voulu vivre dans une ville, c'est leur rêve depuis le commencement. Babel. Ils ont voulu vivre dans Babel. Ils n'ont jamais rêvé autre chose que de construire des villes. Et aujourd'hui, ils ont construit le grand village mondial. Vous voulez vivre dans une ville ? Ok. Sur la terre nouvelle, il y aura une seule ville, Jérusalem. Mais cette ville, c'est moi qui la construirai, selon mes plans. Mais en tenant compte de ce que vous avez voulu, de ce que vous avez souhaité, de ce que vous avez fait. Dieu fait avec les hommes, c'est ça qui est extraordinaire. Le jardin d'Éden, c'est l'œuvre de Dieu seulement. La Nouvelle Jérusalem, c'est l'œuvre de Dieu, mais c'est l'œuvre des hommes aussi. C'est le résumé de toute l'histoire humaine. C'est la récapitulation de toute l'histoire humaine. Et dans les portes de la Nouvelle Jérusalem, entre la gloire des nations. La gloire, ça veut dire tout ce qui est... Oui, tout ce qui est glorieux, quoi, tout ce qui est digne, ce qui fait la grandeur d'une nation. Ce dont une nation peut se glorifier. Eh bien, ce qui est précieux, or, argent, pierre précieuse, même, je dirais, laïque, à la limite, si je peux employer cette expression-là, qui est étrangère à la notion biblique, à la pensée biblique. Mais même ce qui est laïque entrera dans la Nouvelle Jérusalem. Les nations y apporteront leur gloire. Bien sûr, ce qui est paille, ce qui est chaume, ce qui est sans valeur brûlera au feu. Mais ce qui est digne d'être gardé, eh bien, entrera dans la Nouvelle Jérusalem et Dieu construira quelques aspects de cette Nouvelle Jérusalem avec ce que les nations vont apporter, comme les mages ont apporté de l'or, de l'encens, etc. Et Dieu a utilisé cela pour aider la famille de Jésus à vivre en Égypte. De la même manière, Dieu utilisera la gloire des nations, les offrandes qu'ils apporteront finalement. Ils apportent leur gloire en offrande. Et avec ces offrandes, Dieu construit son temple, Dieu construit sa Nouvelle Jérusalem. Alors c'est Dieu, mais c'est eux aussi. Et c'est vrai pour chacun d'entre nous. Ce qu'est notre vie sera jugé de cette manière-là. Ce qui est précieux, ce qui est glorieux, entrera dans la Nouvelle Jérusalem, le reste disparaîtra. C'est pourquoi il est important de construire, dit l'apôtre Paul, avec de l'or, de l'argent, des matériaux précieux, non pas avec du chaume, du foin et des choses semblables. Oui, donc, la gloire des nations, c'est ça. Et la gloire des nations... Eh bien, ce n'est pas Dieu qui impose aux hommes la manière dont ils veulent vivre, dans la manière dont ils veulent le servir. Mais Dieu utilise ce qu'il y a de meilleur dans l'histoire de l'homme, dans l'action des hommes. L'Ecclésiaste nous dit que Dieu recueille ce qui a fui, et il en fait le tri, et il garde ce qui est bon. Et comme j'ai souvent l'habitude de le dire, je suis absolument certain qu'on jouera Bach dans le royaume de Dieu, dans la Nouvelle Jérusalem. Quelque chose de la splendeur du temple de Salomon se retrouvera, d'ailleurs c'est écrit en toutes lettres. Que des œuvres artistiques qui auront eu pour but de glorifier le Seigneur d'une certaine manière, eh bien trouveront leur place, etc. C'est ça la récapitulation, c'est ça la Nouvelle Jérusalem. C'est ça. Et évidemment, eh bien, nous sommes là dans cette situation qu'a décrit l'apôtre Paul, chapitre 15 du 1er Corinthiens, où alors le Messie ayant fini son œuvre, qui consistait à s'asseoir à la droite de Dieu, selon le psaume 110, pour lui soumettre toutes choses. Toute chose lui étant définitivement soumise, le Fils à son tour sera éternellement soumis au Père. N'en déplaise à certains théologiens, même de l'époque de Nicée, qui répugnaient de parler de soumission, afin que Dieu soit tout en tous. Voilà, le but de l'histoire est atteint. Dieu est tout en tous. Et voilà, si vous voulez, cette grande fresque eschatologique que nous dépeint le livre de l'Apocalypse. Et qui a une logique totale, ce qui faisait d'ailleurs l'admiration de Francis Schaeffer, qui l'avait convaincu de se tourner vers le Seigneur, n'est-ce pas ? Et qui est justement ce qui est aujourd'hui remis en cause, remis en question par les adversaires du millénium, parce que quand on nie le millénium, on nie évidemment, et on remet en question tout ce schéma. Voilà, on va s'arrêter là ce soir, si vous voulez, et puis la prochaine fois, on verra quelque chose de moins gai, la destinée des impies et l'enfer. Voilà, est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus ?
Vous parlez de la première résurrection.
Oui.
Pardon ? Sous réserve qu'on soit fidèle jusqu'au bout.
Oui, bien sûr.
La première résurrection, oui. Il y aura deux enlèvements, puisque tout cet ensemble revient avec le Christ qui faut céder sur le monde des Élysées pour sauver Israël.
Oui.
Donc il y a deux enlèvements, quand même.
Il n'y a pas deux enlèvements. Il n'y a qu'un seul. Il n'y a qu'un seul.
Le mort et le vivant ressuscite,
oui,
en Christ.
Oui. Ils sont enlevés ensemble. Ils sont enlevés ensemble.
D'accord. Donc ils sont revenus. Oui, ils ne retournent pas de Jésus.
Oui.
Mais après, Jésus n'est pas encore arrivé pour sauver Israël.
Non.
Si
tu veux, le schéma suit ici. Les morts ressuscitent premièrement. Les vivants sont transformés. Et vivants et morts montent à la rencontre du Seigneur qui descend du ciel, lui. Il descend sur la terre. Et à mi-chemin, si je peux parler comme ça, ils se rencontrent. Et c'est l'ensemble qui redescend. Autre question.
Résurrection.
Oui. Et non, ça ne semble pas quand même. On ne peut pas être absolu à ce point-là, je ne crois pas.
Si nous n'avons pas aussi la première résurrection, est-ce qu'on compare ça devant le jugement dernier, quoi,
Non. Ceux qui ont eu part à la première résurrection, tu lis ça, c'est écrit noir sur blanc, c'est fini, ils ne sont pas jugés, ils ne participent pas au jugement dernier.
Et alors, pour ceux qui n'ont pas la deuxième résurrection, c'est une condamnation ou ils n'ont pas une grâce ?
Il y a... Selon leurs œuvres. Ils sont jugés selon leurs œuvres. Certains, à cause des œuvres qu'ils ont faites, Jésus nous dit ça, celui qui aura donné un verre d'eau à mon disciple, il ne perdra pas sa récompense, quoi. Hein.
Ils ne sont pas sauvés par la foi, mais par les œuvres.
Ben oui, ils vont être sauvés par les œuvres. Ah non, ceux qui n'auront pas eu l'occasion, notamment, d'entendre la parole de Dieu. Enfin, comme disait le Sadou. Sadou disait une chose importante. Il dit, bon, il était venu en Europe... Et il avait vu les soi-disant chrétiens qui vivaient dans le matérialisme. Il a été écœuré. Il a dit, je ne reviendrai plus jamais en Europe. Et il a dit, moi j'avais une mère, il avait beaucoup de respect pour sa mère, il dit, qui était une sainte femme. Elle ne connaissait pas Jésus. Elle avait une connaissance très limitée des choses de Dieu. Mais c'était une femme qui vivait dans la pureté, dans la sainteté, dans les bonnes œuvres et tout, extraordinaire. Elle vivait un standard qui est infiniment plus proche du standard de l'Évangile que celui de nombreux chrétiens en Occident, disait-il. La seule chose, c'est qu'elle ne connaissait pas Jésus. Elle croyait en Jésus parce qu'elle ne le connaissait pas. Et vous croyez que ces chrétiens, disait-il, qui vivent une vie de matérialisme, qui vivent une vie loin des choses de Dieu, et qui disent simplement « je crois en Jésus », etc., « j'ai été baptisé comme si, j'ai été sauvé tel jour », etc., etc., serait sauvé. Et que ma mère, qui vivait infiniment, beaucoup plus authentiquement l'Évangile que ces gens-là faisaient, serait perdue simplement parce qu'elle n'avait jamais entendu, elle n'avait jamais eu la grâce, elle n'avait jamais eu le privilège d'entendre l'Évangile. Il y a une certaine logique dans ce qu'il dit. Et c'est là qu'on a ta réponse. Ben, qu'est-ce que tu veux ? Des gens... qui, par leur vie, par leurs actes, par leurs œuvres, ont montré que, bah, si tu veux, c'était des gens qui, s'ils avaient eu l'occasion d'entendre parler de Jésus, ces gens-là se seraient convertis. Donc Dieu en tiendra compte, tu vois. Dieu en tiendra compte.
Et est-ce que les juifs pieux sont dans le... Enfin,
ah oui, je crois que ça... Ah oui, c'est entre
eux. Les gens dans des biatounes qui ont quand même des vies...
Ah, je pense que le Seigneur tiendra compte de choses comme ça, certainement, oui, certainement. Vous savez, nous, les évangéliques, On est trop prompt à envoyer les gens en enfer. Tu crois pas, allez, hop, dégage. Bon, c'est vrai que la parole de Dieu, nous allons voir ça la prochaine fois quand on va parler de l'enfer, la parole de Dieu nous met en garde. Quelqu'un qui a entendu et qui délibérément rejette, ça c'est quelque chose d'extrêmement grave. Mais le Seigneur tient compte d'une foule de choses. Le Seigneur tient compte des temps d'ignorance. Le Seigneur tient compte, heureusement. Et ce sera pas comme ça, tchac, comme souvent on fait dans les milieux évangéliques. Il y aura des choses... Bon, maintenant, évidemment, la perdition, c'est quelque chose qui existe. Nous en parlerons la prochaine fois. Et c'est quelque chose de redoutable. Et c'est la raison pour laquelle nous avons à prêcher l'évangile à toute créature pour que, justement, eh bien, les gens aient l'occasion d'échapper à ces choses. Bien, autre chose ? Oui, vas-y, oui, bien sûr.
Tout cela qui sont justement ceux qui seront sauvés par vos œuvres, éventuellement, sont dans le séjour des morts. Mais est-ce qu'il y a dans le séjour des morts, ou en part, qui vont être déjà.
Ah oui, je pense.
Est-ce qu'il y a un lieu à part
pour... Ah oui, je pense, oui. Parce que, oui, ce que la Bible appelle le Saint d'Abraham dans Luc 17.
Ah, oui, c'est ça, parce qu'en fait, quand Jésus parle de ce pauvre Lazare,
un croyant en lui. Non, mais c'est sûr. Tout à fait. Et les enfants, l'essentiel des morts qu'il y a dans le royaume de Dieu depuis, enfin dans le séjour des morts depuis la création du monde, c'est des enfants. Nous, on est habitués à une réduction incroyable de la mortalité infantile. Mais il ne faut pas oublier que dans les siècles passés, la mortalité infantile était quelque chose d'effrayant. Et le Seigneur qui a dit « Laissez venir à moi les enfants », etc. Effectivement, il y a le souci du Seigneur pour les pauvres, ceux qui ont été, par exemple, ceux qui ont été dans la Shoah ou des trucs comme ça. Vous croyez que le Seigneur va les envoyer en enfer comme ça ? Il tiendra compte de ça, bien sûr. Et c'est ce que justement il dit à Lazare, tu es consolé, tu as eu tes souffrances pendant ta vie. Il y a d'ailleurs un texte de Talmud qui est intéressant, qui nous dit ceci, les justes, c'est dans la paracha de la semaine prochaine justement, les justes, qu'on décrit, Jacob, non, c'est oui, dans 15 jours. Jacob, Vaïchev, Yaakov, Beretz, Megouré, Aviv. Jacob habita dans le pays où avaient demeuré ses pères. Yishev, il s'installa. Et donc il aspirait à la paix. Et le Midrash dit les justes, le Saint Bissat, il a dit les justes, non seulement aspirent au bonheur futur, mais ils voudraient aussi le bonheur dans ce monde-ci. Bon. Celui qui n'a pas eu le bonheur dans ce monde-ci, ben ça lui en tiendra compte, hein. Ça c'est sûr. Tu as eu tes récompenses pendant ta vie, dit le Seigneur aux mauvais riches, ben maintenant tu souffres, c'est normal. Voilà. Et ce d'autant justement que celui qui souffre, ça c'est une des, c'est un des constantes de l'Évangile, est humble. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. C'est une des béatitudes aussi. Ceux qui sont humbles, aniéroirs, pauvres en esprit, comme on traduit, c'est aussi l'idée d'un esprit abattu, chafal roar. Un esprit abattu, un esprit qui est automatiquement humble. Celui qui souffre n'a pas envie de jouer les vedettes, quoi. Donc il est humble, naturellement.
C'est pour... la vérité et qui est réparti, quoi, qui a abandonné le Seigneur, et à part la deuxième résurrection, il est impardonnable.
Ah oui, alors là c'est sûr.
Grâce.
Ah non, là c'est sûr. Non. Ouais, c'est extrêmement grave. Comme on verra la prochaine fois, il ne faut pas oublier une chose. L'enfer a été créé pour le diable et pour ses anges, et pas pour les hommes. Mais ceux qui s'identifient avec le diable et avec ses anges finissent là aussi. C'est ça la question. Et on verra pourquoi.